La France bouge avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous être utile.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Pendant une heure, nous allons découvrir des patronnes et des patrons qui ne lâchent rien, des acteurs de la société qui imaginent déjà le monde de demain. La France bouge, ici c'est simple, on trouve des solutions et elles sont françaises. Ensemble, on en parle avec Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes et à tous. Entre confinement et télétravail, comment les marques de produits alimentaires se sont réinventées et ont innové pour continuer à nous faire plaisir? Tiens, justement, on en a trouvé une. Elle est française, bien sûr. Ils font des cookies, des snacks ou encore des yaourts à boire et bientôt du vrac. Vous avez reconnu, j'en suis sûr. Le directeur général de Michel et Augustin est notre invité jusqu'à 14h.
À la une, en effet, des petits biscuits gourmands vendus en vrac et au rayon bio, préparés avec des restes alimentaires. Eh bien, on ne peut que retenir leur nom. Il s'appelle Résurrection. C'est la start-up du jour et sa cofondatrice nous racontera l'histoire de ces crackers.
Là, je suis sûr que vous en avez tous mangé au moins une fois dans votre vie. Si je vous dis, Elisabeth, les biscuits BN,
ça j'adore ça.
Ça, vous adorez ça.
C'est quand on était petit.
Bah oui, mais même quand on est grand, ouais, c'est quand même pas mal. Ils sont toujours fabriqués près de Nantes et ce sera notre saga du jour dans La France bouge.
Chaque jour, une entrepreneur ou un entrepreneur vient nous présenter son projet dans La France bouge. Le pitch du jour, Eco Brandebin, un petit sac pour faire la publicité d'une marque et qui se transforme en collecteur de déchets sur les routes de France. Ce projet va-t-il vous convaincre? Réponse 13h45.
Et puis, demain au travail, une nouvelle technique de recrutement, le casque de réalité virtuelle pour mettre davantage en avant la spontanéité des candidats. On vous dit tout vers 13h50.
Et oui, c'est ça, La France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Et oui, bien sûr qu'elle bouge cette France et on va encore vous le démontrer pendant une heure avec Elisabeth et avec notre témoin du jour, bien évidemment sur Europe 1.
Et bonjour Sébastien Guillon.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de Michel et Augustin, une entreprise qui a déjà 17 ans, 105 salariés. Elle appartient aujourd'hui quasiment majoritairement au groupe Danone. Michel et Augustin, ce sont vos biscuits, vos desserts, votre yaourt à boire, votre mousse au chocolat, votre riz au lait, hein, dédicace spéciale à Emmanuel Duteil, ou encore vos cookies.
J'en suis un très très grand consommateur, c'est
que
pour ça.
L'on reconnaît grâce à leur couleur vive. Vos produits se sont imposés dans les rayons de nos supermarchés. Comment ça va en ce moment chez Michel et Augustin, Sébastien Guillon?
Eh bien, ça va plutôt bien. Nous, on a tendance à avoir toujours la pêche, à avoir toujours beaucoup d'énergie. On a eu une année 2020 qui a été un petit peu chaotique, mais on va dire comme beaucoup de gens. On arrive à bien rebondir. On fait un début d'année qui est très positif et très encourageant.
Alors, qu'est-ce qui est encourageant? Est-ce que notamment les gâteaux apéro marchent fort? Parce que, ben, bien évidemment, on ne peut pas aller en terrasse, on ne peut pas aller au restaurant, même s'il faut le faire de façon plutôt limitée à la maison en raison des couvre-feux et des restrictions pour ne pas être trop nombreux à la maison. Il n'en reste pas moins que de temps en temps, avec modération, on trinque quand même. Donc, ça profite, j'imagine, à votre gamme de gâteaux apéro.
Exactement. L'apéritif marche très très bien chez nous. On fait un début d'année à plus 45%.
Par rapport à l'année dernière,
sur les trois premiers mois de l'année. Alors que l'an dernier, on était déjà en forte croissance. Aujourd'hui, on est à peu près à 7,5% de part de marché sur le biscuit apéritif. Et on a de plus en plus de consommateurs qui sont fidèles et qui reviennent régulièrement sur notre dégustation.
Alors, plus 45% dans la consommation de gâteaux apéritifs, bah alors on achète quoi? Il y a quoi dans vos gâteaux apéritifs? Donnez-nous envie.
Et ben, ce qu'il y a de bien dans nos gâteaux apéritifs, c'est que c'est des gâteaux qui sont faits en France avec du bon fromage français, du fromage AOP. Donc on a nos petits biscuits au Beaufort, on en a au Comté, on en a à l'Osso Irati, on en a au Roquefort, on en a au Chèvre, etc.
On arrive à distinguer le goût.
Absolument. Et il y a vraiment sept variantes différentes. Et c'est vraiment une spécificité de ce produit-là. Et là, en plus, on vient de lancer la semaine dernière des petits biscuits à la charcuterie. C'est une nouveauté. Oui.
Et vous allez continuer du coup là aussi, parce que là, vous pouvez aller à l'infini sur la charcuterie.
Là, on a lancé le chorizo, on a lancé le jambon de Bayonne et on a lancé la Copa Corse. Et ça démarre aussi très très bien.
Alors parmi justement les innovations, et c'est ce qui nous a donné en partie envie de vous inviter aujourd'hui, vous lancez dans le vrac justement pour les gâteaux apéritifs. Vous allez faire quoi concrètement?
Alors en fait, nous, on a deux moteurs chez Michel et Augustin. Notre premier moteur, c'est vraiment notre communauté, notre base de fans qui nous suit depuis très longtemps et qui s'engage avec nous et qui communique énormément avec nous. Notre deuxième moteur, c'est la tribu, c'est les trublions, les employés de Michel et Augustin, qui ont des fortes convictions, qui ont des forts engagements. Et en fait, on a vu en 2018, dans tous les échanges qu'on a eus avec nos consommateurs, il y avait 0,2% des demandes qui nous étaient faites qui concernaient le packaging. L'année suivante, en 2019, c'était 2,2%. En 2020, à mi-année 2020, il y avait 6,7%.
Ah oui, donc ça augmentait de façon
qui concernait le packaging, l'emballage, trop de plastique, le suremballage, etc.
Donc là, vous vous êtes dit, la solution, c'est le vrac.
Et en parallèle, on a réalisé que dans la tribu, il y avait plus de la moitié des trublions qui étaient acheteurs de vrac, qui allaient dans des rayons vrac, qui allaient dans des magasins spécialisés vrac, et qui n'avaient pas de produits Michel et Augustin qui étaient disponibles pour eux. Donc on s'est dit que s'il y avait une marque, un intervenant qui devait s'attaquer à ce marché-là, c'était nous. Et on a commencé le projet l'an dernier.
Donc, on va trouver, je crois que c'est dans les enseignes Day by Day, hein, donc le leader du vrac aujourd'hui en France. Ça correspond à ce que l'on recherche en ce moment. Mais alors, c'est quoi ? On va trouver aussi les mêmes petits gâteaux apéritifs là, au fromage. On va les retrouver en vrac ?
Exactement. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toutes nos références d'épicerie, donc que ce soit en les gâteaux sucrés, les gâteaux salés, et on les a mis en condition vrac. Et on
mais
les a goûtés toutes les semaines.
Ça vieillit
bien ? Au
bout
d'une semaine, deux semaines, trois semaines, jusqu'à six semaines. Il n'y avait aucune différence perceptible entre un gâteau en vrac, qui a vieilli en vrac, et un gâteau emballé. À partir de 8 semaines, on commençait à voir les tout premiers éléments. Et ce qui nous a beaucoup rassurés, quand on est allé discuter avec le réseau Day by Day, c'est qu'un bac de vrac qui fait 4 kilos dans un magasin Day by Day, en moyenne, il dure une semaine ou deux semaines dans le magasin. Donc si nous, on peut garantir 6 semaines de conservation, il n'y a absolument aucun problème.
Vous commencez avec seulement quelques références, hein, je crois, là chez Day by Day.
Exactement.
C'est un test parce que vous y croyez vraiment. Pour vous, ça va vraiment être une forme de développement de l'avenir, de pouvoir avoir vos produits. En vrai, vous êtes l'un des premiers noms de l'agroalimentaire à y aller comme ça. Hein,
c'est... Absolument. Donc pour nous, c'est plus qu'un test parce qu'on se lance dans tous les magasins Day by Day, donc 73 magasins en France. Et l'idée, c'est qu'on apprenne beaucoup de cette manière de travailler. C'est un circuit logistique qui est complètement nouveau entre la production, le transport, le nettoyage, etc. Et derrière,
mais
on
du coup,
a
c'est vendu
vocation...
plus cher ou moins cher un gâteau en vrac ?
Eh ben, c'est vendu. Parce que
c'est
prix.
Déjà cher aujourd'hui.
Alors, je vais vous dire, je les ai achetés ce matin. Donc ceux-là, ils ont été achetés.
Donc ceux qui sont dans un petit paquet, par ailleurs très sympa, un petit sachet en tissu.
Ils sont vendus à 25,90 € le kilo. Et ceux qui sont en
paquet
sachet,
normaux.
Donc que j'ai acheté ce matin également dans une enseigne GMS parisienne.
Donc la grande distribution.
Ils sont vendus, ceux-là, ils étaient à 2,60 €. Donc ceux en vrac sont quasiment au même prix, légèrement inférieurs.
Et il y aura toujours le petit
faut
sachet
revenir avec son
en
sac,
tissu.
J'imagine, à chaque fois.
Le petit sachet, c'est vraiment pour les premiers jours, etc.
Bah c'est dommage.
Mais la plupart des consommateurs des rayons vrac, en fait, viennent directement avec leur propre emballage. Et c'est tout l'objectif.
Ils se sont lancés dans le vrac. Ils affichent une hausse de 40% dans la consommation des biscuits apéritifs. Sébastien Guillon, vous êtes le directeur général de Michel et Augustin. Et vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Elle bouge et elle mange, semble-t-il, cette France, en tout cas si l'on en croit notre invité du jour, le directeur général de Michel Augustin, Sébastien Guillon, on l'a entendu, notamment au rayon apéro, une progression assez folle, hein, plus de 40% de progression sur les gâteaux apéro. Et on parle également du vrac dans cette émission, puisque Michel Augustin annonce aujourd'hui son déploiement dans les magasins Day by Day, le leader en France du vrac, de toute une gamme de gâteaux apéro à acheter en vrac.
Et dans l'alimentation, c'est un peu mieux. Le temps est venu non seulement de ne pas gaspiller, c'est vrai, mais il faut aussi que ça ait du goût. Alors pourquoi ne pas utiliser le marc de pomme issu de la fabrication du cidre ou encore l'okara de soja issu de la fabrication du tofu ? Eh bien, c'est l'idée géniale d'une entrepreneuse bordelaise. Bonjour, Marie Kérouédan.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 dans la France Bouge. Vous êtes la cofondatrice et la dirigeante de Résurrection. Résurrection, c'est une marque bio française, elle est anti-gaspi, elle existe depuis 2017. Et pour résumer, ce sont des biscuits apéro à base de restes alimentaires, c'est un peu ça ?
Alors oui, on peut le dire comme ça. En fait, j'ai eu l'idée de collecter un certain nombre de résidus issus d'entreprises agroalimentaires pour en fabriquer des biscuits apéritifs. Alors tout ça est parti d'un stage dans une brasserie artisanale où j'ai pris conscience des gisements de coproduits. On les appelle aussi des coproduits, ces déchets qui résultaient du processus de brassage. Et le soir même, j'ai fait des premiers prototypes pour essayer de découvrir ce que ça pouvait donner en goût. Et il s'est avéré que c'était extrêmement gourmand, savoureux, que ça diffusait de très bonnes odeurs. Et le projet est parti de là.
C'est ça qui est fou et qu'on a trouvé génial avec Elisabeth dans votre histoire, c'est que ça aurait pu ne jamais exister si vous n'aviez pas eu l'idée de faire ces tests. Il n'y avait pas de recette, il n'y a rien qui pouvait vous servir de base.
Non, pas du tout. Non, je suis pionnière dans ce domaine. Et c'est vrai que c'est vraiment un soupçon d'innovation, un goût pour la gourmandise, c'est certain, pour le fait maison, pour la pratique culinaire aussi, qui m'a incité à faire ces essais et à développer toute une gamme. Alors évidemment, maintenant, je ne suis pas toute seule. On est une dizaine dans l'équipe de Résurrection.
Bravo.
Et c'est bien entendu toute l'équipe qui œuvre à fabriquer ces savoureux biscuits apéritifs.
Alors, il y a quoi dans ces biscuits apéritifs? Racontez-nous le processus, en fait, pour que l'on puisse bien comprendre.
Alors on a des entreprises partenaires, donc des brasseurs, des cidriers, des entreprises productrices de tofu, de lait végétaux, chez qui on collecte les coproduits, nous transformons ces coproduits et ensuite on les incorpore dans des recettes de biscuits. En fait, notre savoir-faire, il est avant tout biscuitier.
Donc quand vous dites coproduits, ce sont donc ces fameux restes qui étaient destinés à terminer dans une poubelle. Pour être simple.
Exactement. Alors, dans une poubelle ou en alimentation animale, il y a beaucoup de ces coproduits qui sont utilisés en alimentation animale, mais pour ça, il faut qu'il y ait des élevages à proximité, ce qui n'est pas toujours le cas. Il en reste pour les animaux, on leur fait pas concurrence, les gisements sont absolument colossaux en France de ces coproduits. Simplement, nous, on transforme en fait ce qui était un déchet, on le fait devenir un ingrédient et un savoureux ingrédient. On y ajoute des farines nobles, de l'huile d'olive extra vierge, une pincée d'épices, des graines. Aujourd'hui, on sort ce mois d'avril une gamme au fromage également. Et on est sur des ingrédients qui sont locaux, puisqu'on est à 85% d'ingrédients origine France. Et on sort même une recette là à 99% origine France dans les semaines qui viennent.
Alors, vous allez trouver ma question un peu idiote sûrement. Et puis, au travers de la radio, c'est peut-être pas le plus simple. Mais ils ont quel goût, ces gâteaux? C'est quand là, vous dites, on sort une gamme au fromage. On sent, comme par exemple dans les gâteaux Michel Augustin, on sent le Beaufort, on sent le Comté, on sent le Parmigiano.
Alors nous, on est sur le Comté, on est sur l'emmental, on est sur des épices qui sont savoureuses, des herbes. On a toujours un fort goût de céréales. C'est vrai que, alors on a commencé avec les céréales de brasseur et qui amène un très fort goût de torréfaction, de caramel, etc. Et on y ajoute des farines nobles, de la farine de châtaigne, de la farine de petite épeautre, de la farine de sarrasin. Bref, des farines qui ont du caractère et qui amènent des saveurs assez puissantes et géniales pour accompagner une boisson à l'apéritif ou pour un moment de snacking.
Et puis des saveurs puissantes avec une très bonne note au Nutri-Score en plus.
Oui. Alors on est également positionné là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on défend un positionnement d'un snack 100% non coupable.
C'est
alors,
ça,
non
ça coupable fait du bien.
Au niveau de... C'est ça, ouais, non, mais c'est clairement l'objectif. Alors il y a cette partie coproduit et donc l'éco-responsabilité avec ces coproduits, mais il y a également la gourmandise, bien sûr, parce que c'est quand même le critère numéro un, c'est se faire plaisir, mais il y a également la nutrition. C'est vrai que nous, on a à cœur de proposer des produits sains, donc qui ne font pas de mal à la planète, mais qui ne font pas de mal à l'être humain non plus. Et donc on a un Nutri-Score B sur toute notre gamme aujourd'hui.
Et on vous trouve déjà dans 450 points de vente, c'est ça?
Oui, à peu près entre 450 et 500. En fait, ça augmente tous les jours. C'est vrai qu'on a, alors on a de la demande entrante, mais bon, on prospecte évidemment beaucoup sur tout le territoire français. Donc aujourd'hui, oui, on fait entre 450 et
500. Sébastien Guillon, je rappelle que vous êtes le directeur général de Michel Augustin. C'est vrai que c'est un peu fou, cette idée qui aurait pu ne jamais arriver à terme si le goût n'avait pas été agréable. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Moi, je connais la marque Résurrection depuis un petit moment. Je trouve que c'est une idée qui est absolument extraordinaire. Et c'est vrai qu'en plus, les biscuits sont bons. Donc, c'est aussi une source d'inspiration pour nous de regarder des startups qui continuent à se développer.
Inspiration, ça veut dire que vous pourriez y aller?
C'est-à-dire
sur
que
les
c'est,
bioproduits,
c'est quelque les... chose, effectivement, qu'on pourrait regarder dans le futur. Parce que je trouve qu'il y a... Il y a quelque chose d'intéressant.
C'est marrant ce que vous dites, que c'est une source d'inspiration. Quand vous êtes né, vous, il y a une petite vingtaine d'années, c'était vous les trublions à l'époque du goût. Est-ce que c'est dur de garder cette innovation quand on appartient à 95% à Danone, qu'on est devenu une entreprise de plus de 100 collaborateurs?
Alors, nous, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on n'appartient pas vraiment au groupe Danone. C'est Danone qui a créé un fonds d'investissement qui investit dans des startups innovantes qui ont pour vocation d'inventer la nutrition de demain. Donc on est dans un écosystème hyper riche et on est stimulé au quotidien pour inventer les produits de demain. On a été beaucoup copiés. Et si on n'est pas si on n'a pas un coup d'avance, un temps d'avance sur les autres, et ben on risque de rester un peu au même niveau.
Mais justement, vous le dites, hein, Sébastien Guillon, que Michel Augustin, vous êtes condamné à innover. Ça veut dire que c'est votre modèle. Ça va être là, vous regardez ce que fait Résurrection. C'est-à-dire, c'est pour pouvoir accompagner ce mouvement.
On s'inspire de ce qui se passe à l'étranger, on s'inspire des petites marques, on s'inspire des feedbacks de nos consommateurs au quotidien et on doit apporter quelque chose de nouveau sur le marché. Là, on vient d'introduire récemment une pâte à tartiner qui est deux fois moins sucrée, qui est complètement révolutionnaire et qui a conservé au rayon frais.
Et elle est bonne. Voilà, faut le faire. Deux fois moins sucrée.
Et c'est ça notre moteur de croissance et c'est là où on est attendu et c'est ce qu'attendent nos consommateurs de notre part.
Marie Kérouédan, vous êtes la cofondatrice des Crackers Résurrection. En plus de ça, votre projet tient la route parce que vous allez recruter. C'est important de le préciser.
Oui, bien sûr, on va recruter 5 à 6 personnes cette année. On ouvre notre propre site de production. Alors c'est vrai que nous on a mis beaucoup l'accent. Alors sur l'innovation, bien entendu, c'est le cœur du projet à l'origine et c'est toujours très intense en termes d'innovation. Mais on a aussi tenu à développer notre savoir-faire et pour ça on a développé notre ligne de production et on s'installe aujourd'hui. On installe notre usine d'ici l'automne à proximité immédiate de la ville de Bordeaux et donc on va recruter pas mal de personnes.
Ça s'appelle Résurrection. Merci à vous Marie Kérouédan. Vous êtes la cofondatrice et la dirigeante de cette jolie marque. Merci d'être intervenue dans La France Bouge.
Et Sébastien Guillon, le directeur général de Michel et Augustin, on vous garde, vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
La Caisse d'épargne vous présente La France Bouge. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Elle bouge et elle mange cette France depuis 13h, hein, comme chaque jour, en direct de 13h à 14h. On est très heureux avec Elisabeth de vous accueillir et d'accueillir aujourd'hui Sébastien Guillon, qui est le directeur général de Michel et Augustin. Alors on a parlé des produits en vrac, on a parlé des gâteaux apéro. Est-ce qu'ils sont bio, tous ces gâteaux chez vous? Qu'est-ce que ça représente le bio maintenant chez Michel et Augustin?
Alors le bio, c'est une petite partie de notre business. On a nos boissons qui sont en bio et récemment, on vient de lancer, je venais d'en parler, de notre pâte à tartiner qui est 100% bio. Historiquement, Michel Augustin, ce n'est pas une marque bio. On voit que c'est des attentes de plus en plus fortes chez les consommateurs, au même titre que des produits moins emballés, au même titre que des produits avec des scores nutritionnels qui sont plus adaptés. Et donc, nous, comme je disais, on s'adapte. Il faut qu'on ait un temps d'avance et c'est de plus en plus intégré dans nos réflexions.
Donc, ça signifie... Là, vous avez quoi? 2, 3, 4 produits référencés bio chez vous, c'est ça?
On en a 6 aujourd'hui.
6. Ça signifie que vous allez travailler pour avoir vos produits certifiés bio?
Alors, en fait, nous, le point d'entrée, ce qui est vraiment important, c'est le goût. Le goût avant tout, c'est ça qui nous définit et on ne fera jamais aucun sacrifice sur l'aspect gustatif. Ça veut dire qu'on choisit des matières premières qui sont des matières premières de qualité, qui sont souvent des matières premières françaises. Et tout ça, ça a un impact aussi sur le coût. La limitation qu'on va voir assez souvent, c'est que si en plus on veut rajouter des matières premières bio, ça rajoute 30% dans les coûts de production et on risque d'être un peu déconnecté par rapport au marché. Donc on ne peut pas se le permettre sur toutes les catégories. Il y a des catégories où c'est une vraie attente du consommateur et il faut y aller. Et c'est le cas sur le marché de la pâte à tartiner. C'est beaucoup moins le cas sur l'apéritif aujourd'hui où la demande ou l'attente de bio est moins importante chez le consommateur.
Alors, on a fait l'apéro, on a fait le petit-déj, d'une certaine manière, avec la pâte à tartiner, qui nous amène au goûter. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de parents qui le savent très bien, là. On a les enfants à la maison, il n'y a pas d'école. Ça reprend lundi pour une bonne partie d'entre eux, rassurez-vous. Est-ce que, du coup, ça dope toute votre offre du goûter?
Alors, nous, on est sur du goûter plutôt adulte, en fait.
Les parents mangent avec les enfants.
Donc, les parents mangent avec les enfants.
Mais c'est quoi un goûter adulte?
On a notamment une gamme de cookies ultra fins qui est.
Vous savez, ceux que vous adorez, là, que vous réchauffez,
les oui,
j'en ai dans mon sac, je vous le laisserai.
Il n'y a pas que les adultes. Ça peut plaire à tout le monde.
Oui, mais il se trouve que nos consommateurs sont plutôt des adultes et assez peu des enfants. Donc, c'est une des spécificités okay. qu'on a chez
nous. Fins, alors. On a l'impression de moins en manger. Donc, c'est moins coupable.
Peut-être.
Alors, l'année 2020, vous le disiez, a été une année un petit peu bizarre pour vous, une année hachée. L'année 2021, ça part extrêmement bien. Sur quoi vous travaillez pour demain dans vos produits? Vous le dites hein, toujours, c'est le goût. Mais qu'est-ce qui sera le nouveau segment de marché, d'une certaine manière, pour Michel et Augustin demain?
Alors, nous, on est présent aujourd'hui sur 6 catégories, ce qui est déjà énorme par rapport à la taille de notre entreprise. En général, quand on regarde les entreprises classiques en agroalimentaire, elles se spécialisent sur un segment, un secteur. Nous, on a fait le choix d'aller sur beaucoup, beaucoup de catégories. Et là, on vient d'introduire une nouvelle catégorie qui est la pâte à tartiner, qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de communication, beaucoup d'éducation du consommateur, parce qu'on va pas être vendu dans le rayon ambiant, mais on va être vendu dans le rayon frais. Et donc, je pense que pendant les 2-3 prochaines années, on va déjà se concentrer sur...
C'est à ce point-là ? C'est comme si vous lanciez une nouvelle Clio, si on doit comparer avec Renault ?
Exactement. Pour nous, c'est un très gros investissement en termes de temps, en termes de moyens, en termes de partenariat industriel, en termes de construction de la distribution avec les enseignes. Et vraiment éduquer le consommateur parce qu'il est adapté.
Mais par exemple, pourquoi prendre, ma question est peut-être une question de Béotien totalement idiote, mais pourquoi prendre le risque de la vendre en frais si ça aurait été plus simple de se mettre à côté de Nutella, on va pas le citer, hein, c'est quand même bien lui le gros concurrent rayon classique quoi.
Parce qu'en fait, quand on regarde le marché de la pâte à tartiner aujourd'hui, on voit qu'il a pas vraiment évolué depuis 60 ans. Une pâte à tartiner, c'est plus de la moitié du sucre, après c'est de l'huile, souvent de l'huile de palme, et avec des scores nutritionnels qui sont pas du tout bons. Nous, on voulait pas être la énième marque de pâte à tartiner. Et donc, notre lancement sur la pâte à tartiner était conditionné à une vraie amélioration. Bien évidemment qu'on soit très bon, mais en plus, qu'on soit deux fois moins sucré et 45% moins calorique. Une fois qu'on fait ça, quand on enlève le sucre de la pâte à tartiner, on a remplacé l'huile par un mélange de lait et de céréales. Et c'est un produit qui ne se conserve pas en ambiant. Donc, on est obligé de le mettre au frais pour pouvoir le conserver.
Chaque jour dans La France Bouge, Sébastien Guillon se pose et on découvre l'histoire d'une marque, d'un produit ou d'un endroit français qui ont traversé des générations dont nous sommes fiers. Et tiens, aujourd'hui, on va vous emmener à Vertoux, près de Nantes, à la biscuiterie nantaise. Là-bas, depuis 1897, on fabrique les BN, les fameux biscuits. On les appelait les bichocos à mon époque.
Ah ouais ? Oui, parce que c'était une déclinaison, je crois. Moi, j'ai toujours dit les BN au chocolat, à la fraise, enfin bon, à tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, 95% de la production de BN est française, avec notamment du blé français. BN, ça veut dire bien évidemment biscuiterie nantaise. Et c'est notre saga du jour, racontée par notre gourmande à nous, Charlotte Barrican.
Europe 1, la France bouge. La saga.
La biscuiterie nantaise, mieux connue sous le nom de BN, est fondée en 1897 par Pierre Cosset, un pâtissier, et son but, pouvoir offrir des biscuits aux marins. C'est là que naît le premier produit de la marque, le Petit Breton. Florence Marco, directrice marketing chez BN.
Les gens ne le savent pas, mais en fait, le mot biscuit vient du mot bicuit, qui signifie tout simplement cuit deux fois. Ce qui permet en fait aux biscuits, enfin plus précisément aux gâteaux, de retirer en fait l'humidité et donc d'en améliorer la conservation, ce qui est du coup très utile aux marins qui partent plusieurs semaines et plusieurs mois en mer.
C'est après la Première Guerre mondiale que BN connaît un grand succès. En 1922, le Petit Breton est remplacé par un gâteau de guerre plus consistant pour nourrir les soldats, le casse-croûte BN. Un biscuit simple et pas cher qui devient rapidement l'encas préféré des Français. Et vous aussi, vous le connaissez.
Le succès de ce biscuit casse-croûte va inciter les pâtissiers toujours de cette biscuiterie nantaise à en proposer une version un peu plus gourmande, en innovant tout simplement, en insérant en fait un fourrage au goût chocolat entre ces deux biscuits casse-croûte. Comme un sandwich, en fait. Et c'est donc en 1933 que naît ce qu'on appelait à l'époque le choco casse-croûte, qui viendra quelques décennies plus tard, le célèbre choco BN.
Dans les années 50, la marque s'installe grâce à des rendez-vous inédits comme la tournée des plages BN avec cette caravane qui sillonnait les stations balnéaires pour distribuer des biscuits aux familles. Plus tard, c'est aussi l'arrivée des BN aux fruits, fraises, abricots et même cerises. Pendant plusieurs années, la biscuiterie nantaise prospère, mais dans les années 90, la concurrence est là et ça s'essouffle. Alors pour survivre, elle se métamorphose. On ajoute un sourire sur le biscuit.
Le célèbre Choco BN s'est transformé et a adopté un visage avec des yeux et un sourire malicieux et affectueux. Et c'était vraiment le début d'une nouvelle vie pour BN et une façon de reconquérir le cœur des Français au début des années 90. Et suite à ça, d'ailleurs, est né aussi le célèbre biscuit mini BN. qui est un petit biscuit sourire, tout mignon, en sachet individuel, là aussi facile à transporter et emporter partout.
Paris réussi, aujourd'hui en moyenne les Français consomment 1,5 million de chocobéennes, ce qui représente, si on les met bout à bout, 385 km de biscuits, soit la distance Nantes-Paris. Depuis le début de la crise sanitaire, la nouvelle stratégie de BN, c'est de faire du bien aux familles. Dans les prochains mois, il y aura un nouveau logo et de nouvelles recettes qui n'avaient pas changé depuis 10 ans.
C'était la saga du jour racontée par Charlotte Barrican, ces fameux BN qui ont effectivement bercé notre jeunesse et sûrement de celle de beaucoup d'enfants encore en ce moment. Sébastien Guillon, je rappelle que vous êtes le directeur général de Michel et Augustin. Vous produisez où, vous, pour Michel et Augustin ?
Alors nous, on produit dans 18 sites différents. On a des partenaires fabricants qui sont répartis un peu dans toute la France. Et c'est ça qui nous permet d'être présents sur plusieurs catégories et plusieurs technologies différentes.
Donc vous n'avez pas une usine Michel Augustin ?
Non, on travaille vraiment avec des partenaires locaux. Donc on en a en Charente, on en a en Bretagne. Là, les biscuits apéritifs, ils viennent de Fouesnant, en Bretagne, par exemple.
Et pourquoi ne pas tout centraliser dans une usine ? Ça peut être maintenant que vous êtes une entreprise accomplie, avec plus de 105 salariés présents aux États-Unis, ça aurait du sens ?
Parce qu'en fait, produire des yaourts, produire des biscuits apéritifs, produire des cookies, produire des pitas, produire des mousses au chocolat, ça demande des technologies et des savoir-faire très très différents. Et ce ne serait pas possible dans le même site de production.
Sébastien Guillon, vous êtes le directeur général de Michel et Augustin. Vous restez avec nous. Place maintenant un moment fort de La France Bouge, le pitch du jour. On va vous demander de donner votre avis, de conseiller un entrepreneur. Là, c'est une entrepreneur qui se lance.
Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Et bien sûr que La France bouge, c'est le moment, tiens, justement de l'émission. On découvre, allez, les pépites de demain. Ce sont nos trophées Europe 1, La France bouge. Ça se passe chaque jour, hein, devant l'œil attentif de notre grand témoin, en l'occurrence aujourd'hui, Sébastien Guillon, qui est le directeur général de Michel et Augustin. Et puis, bien évidemment, avec les oreilles toujours très averties de notre fée, Nathalie Carré, de la Chambre de commerce et d'industrie. Place donc, Elisabeth, au pitch.
Le pitch du jour, un projet né il y a un an. Bonjour. Bonjour Carole Bélanger.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice de Eco. Alors on dit Eco Brand Bean, c'est
Eco
ça
Brand Bean,
ah, je suis désolée, hein, j'ai dit Eco Brand Bean tout à l'heure.
Moi Eco, aussi.
Évidemment, Bean comme la.
La poubelle.
Voilà, comme la poubelle. C'est un petit sac publicitaire qui est réutilisable, qui permet aussi de collecter des déchets pour agir en faveur de la propreté des routes. Comment avez-vous eu l'idée ? Quelle est la clientèle recherchée ? C'est parti pour votre pitch, vous avez une minute.
Donc, près d'un Français sur trois jette des déchets par la fenêtre de sa voiture. Alors certes, la prochaine poubelle n'est jamais loin, mais si grâce aux entreprises, elle était directement dans leur voiture et qu'elle était pour ces dernières une opportunité d'enrichir leurs initiatives marketing. C'est ce que propose Eco Brand Bean avec Sabine. Notre objectif est de bousculer les codes des goodies traditionnels avec un support de communication nouveau permettant aux entreprises et à leurs clients d'être à l'initiative d'un geste simple qui fait avancer les choses en matière environnementale. La Bean est un petit collecteur de déchets personnalisable, issu de matières recyclées, qui s'accroche très simplement sur le levier de vitesse, appuie-tête et accoudoir des véhicules. Une fois pleine, elle se vide et se réutilise. Son utilisation quotidienne et sa surface d'impression large et plane assurent une visibilité récurrente et forte du message que l'entreprise souhaite faire passer. C'est l'objet média idéal. Les trois avantages de notre produit. Il est utile et réutilisable, donc très visible. Il est porteur de valeur car engagé pour la propreté des routes. Et enfin, son prix.
Et ben voilà, je vous ai quand même laissé terminer. Ça aurait été dommage d'avoir qu'une des raisons. Un grand merci à vous, Carole, pour ce pitch.
Oui, et Carole, on peut le montrer là, en direct
bien
sur
sûr.
Europe1.fr, ce petit sachet qui est vraiment pratique. Je vais le prendre. Voilà, il est très pratique, il est très très bien fait. Et donc vous
c'est
pouvez.
Vrai que c'est pas mal.
C'est bien fait. Franchement, et la matière est très agréable. Alors, Carole, on va demander l'avis de notre experte, hein, Nathalie Carré, de la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Carole, bonjour
Emmanuel.
Bonjour.
Bonjour.
Nathalie Carré, chaque jour, analyse les dossiers, les candidatures. Et je crois qu'elle a deux, trois choses à vous dire. Quelles sont les forces et les faiblesses d'Eco Brand Bean ?
Alors les forces, en fait on se demande pourquoi ça n'existe pas déjà et que ce n'est pas livré avec les voitures. C'est simple mais c'est tellement pratique. Deuxième point fort, vous assumez clairement votre position, c'est un outil marketing, mais tant qu'à faire, vous proposez une solution utile et écologique, donc c'est intelligent et c'est attendu par les consommateurs. Et puis, troisième point fort, l'adaptabilité pour fixer la Bean, ce qui permet de démultiplier les usages, voitures, avions, trains, bus, etc. Un point amélioré, une suggestion, Alors, le prix, donc on... bah alors Emmanuel, que se passe-t-il?
C'est vrai, bah, vous... pas le prix, pas
alors répondu. Emmanuel
Attendez, je vais vous expliquer, les filles, du calme. C'est uniquement parce que, à la base, vu que c'est pour le moment, pour les entreprises, je me suis dit que c'était pas très intéressant pour vous tous. Je voulais pas vous embêter. C'est pour ça.
Bon, alors c'est combien quand même?
Alors, le prix, il varie en fonction
de la taille de l'entreprise.
Non.
De la commande.
De la commande, en revanche. Du niveau de personnalisation, puisqu'on peut choisir en fait la couleur du sac.
Vous pouvez mettre des trucs qui clignotent et
tout. Plusieurs couleurs, QR codes. D'accord. Ça dépend en fait les besoins de l'entreprise. Mais pour vous donner une fourchette quand même, on va se situer entre 1 et 2 euros.
Alors Nathalie Carré, on vous a copié.
Justement,
vous coupez.
Eh bien justement, il y a des gens qui n'aiment pas bien remplir un formulaire, appeler, on a le commercial. Et donc donner des exemples de devis, ça peut éviter, ça peut permettre de convaincre des personnes qui n'ont pas envie de passer par le commercial. Et puis, justement, une suggestion, peut-être que vous pourriez avoir une offre pour les particuliers avec un partenariat,
association. Nous, on aimerait bien, franchement.
Ben oui, une association qui offre pour l'écologie, par exemple, parce qu'on pourrait fixer notre bin dans notre voiture, bien sûr, mais sur la poussette de bébé, sur le vélo, etc. Et nos achats permettraient de financer cette association, ce qui serait en accord avec vos valeurs et augmenterait votre clientèle.
Mais c'est une excellente idée, Nathalie Carré, hein, franchement. Ouais. Avec une association, ce serait formidable.
Je note.
Mais moi, j'avais une autre question à vous poser. Il n'y a qu'une seule taille pour le moment, parce que, par exemple, pour un trajet un peu long en voiture, si on a 2-3 enfants derrière, ça peut vite être très, très vite rempli quand même.
Il suffit d'en avoir plusieurs.
Ah, il suffit d'en avoir plusieurs.
Non, il n'y a qu'une seule taille simplement parce que pour être positionné comme il faut, pour les conducteurs dans la voiture, il faut que ça ne gêne pas la conduite.
Parce que pour que les auditeurs se rendent compte, c'est du taille d'une feuille A4 de papier environ.
À peu près, ouais, on est sur 39 par 20.
Sébastien Guillon, vous êtes le directeur général de Michel et Augustin. Je vous ai vu, vous écoutiez attentivement le pitch de Eco Brand Bean. Quel est votre regard là-dessus? Ça peut être pas mal chez Michel Augustin aussi.
Alors moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, effectivement. J'ai écouté avec beaucoup d'attention. Je trouve que c'est un objet publicitaire qui est original, qui est intéressant, qui est pratique. Et je pense que ça mérite d'être connu. Donc, n'hésitez pas à communiquer le plus possible, à aller parler aux marques, parce que je pense que ça pourra effectivement intéresser pas mal de...
Si elle venait vous voir, là, vous proposer dans votre bureau chez Michel Augustin, c'est quelque chose que vous pourriez valider? Ça
Alors,
peut rentrer
nous,
en ligne de compte?
Pas du tout d'objets publicitaires aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. Mais il faudrait voir un peu au cas par cas quel est l'usage pour les consommateurs. Est-ce que ça apporte un vrai service? Est-ce que c'est en adéquation avec les valeurs et les projets? Mais pourquoi pas.
Carole, vous avez besoin de fonds?
Pas pour l'instant.
Pas besoin d'argent, ça change.
Non, on a surtout besoin de faire connaître notre produit, en fait, et que les entreprises sachent que ça existe et expliquer son fonctionnement.
Ça s'appelle Eco Brand Bean. Merci à vous, Carole Bélanger, d'être venue nous présenter dans les pitchs Europe 1, les trophées La France Bouge.
Merci également à Nathalie Carré, qu'on aura beaucoup de plaisir à retrouver dès demain. Et je vous promets, demain, je redonnerai bien le prix. Je vous rappelle que si vous aussi, vous voulez postuler, il suffit comme ça de s'inscrire. e1-lafrancebouge@europe1.fr et comme ça vous aurez peut-être l'occasion de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Sébastien Guillon, vous restez avec nous encore quelques minutes?
Avec plaisir.
Eh bien c'est parti, suite et fin de votre émission avec Demain au travail.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
On le voit, elle bouge, elle regorge d'idées. Hein, c'est ce qu'on essaye de vous montrer comme ça chaque jour dans La France Bouge, avec notamment notre témoin du jour, Sébastien Guillon, qui est le directeur général de Michel et Augustin.
Et chaque jour, nous mettons en avant les entreprises qui placent le bien-être et l'humain au cœur de leurs préoccupations. Bonjour Yannick Wellenreiter.
Oui, bonjour à vous.
Mais vous êtes le directeur du cabinet de conseil Walter. C'est un cabinet de recrutement qui existe depuis 1987, environ une dizaine de salariés. Vous êtes situé dans le Grand Est de la France. Et vous, comme je viens de le dire, votre mission, c'est de recruter les gens. Donc quand on recrute, on recherche souvent des compétences, des CV, des diplômes. Mais il y a aussi toute cette part autour de la personnalité. Alors pour en savoir plus, vous vous êtes dit, on va mettre les candidats en situation, mais pas n'importe comment, on va utiliser des casques de réalité virtuelle.
Oui, effectivement. Alors on est effectivement un cabinet de recrutement qui est spécialisé dans le recrutement de cadres. Hein. On est présent également sur Paris. Et on utilise aujourd'hui Audity VR, qui est une application de réalité virtuelle, parce que aujourd'hui, dans le cadre de nos processus de recrutement, les compétences comportementales, autrement dit les soft skills, sont très importants et de plus en plus importants, que l'on soit sur des fonctions de direction générale, de cadre, d'employé ou d'intérimaire.
Alors, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que détecte ce casque de réalité virtuelle ?
Alors, en fait, Audi BDR est un outil de réalité virtuelle qui permet en fait de révéler vos propres traits de personnalité. En fait, aujourd'hui, il existe beaucoup de tests de personnalité. La problématique de ces tests-là, c'est que vous mettez les gens dans un mode de réflexion. Et ce qu'on cherche à avoir, c'est surtout avoir beaucoup plus de spontanéité et de naturel. Audi TVR, en fait, est un dispositif qui permet d'immerger les gens dans des situations, de regarder finalement dans ces situations-là comment ils vont se comporter et à partir de là, d'en révéler leur savoir-être, leur trait de personnalité.
Donc ça signifie que finalement, ce casque de réalité virtuelle, on les met un peu en immersion. Hein, je ne sais pas, par exemple, ça peut être un jeu, un sport. Et là, vous voyez leur spontanéité, leur capacité à vivre en équipe. Donnez-nous des exemples pour qu'on puisse vraiment comprendre.
C'est effectivement complètement ça. En fait, on a un côté qui est très immersif et qui est très désinhibant, qui fait que finalement, vous allez vous comporter comme si vous étiez confronté à cette situation-là dans la vie réelle. Donc, on a forcément une plus grande précision. Je vous donne juste deux exemples. On a un des modules qui est un jeu de handball, donc avec un certain nombre de consignes. Et on va regarder, ben, finalement, est-ce que vous allez chercher à marquer systématiquement au tir au but? Est-ce que vous allez faire une passe à vos coéquipiers? Dans quel ordre vous allez faire ça? Et donc là, ça va permettre de révéler un certain nombre de choses, notamment ben, votre capacité à travailler en équipe, votre capacité de leadership. Un autre exemple, vous êtes immersé dans la ville de New York sur une plateforme qui est en hauteur, hein, donc vous avez l'effet du vide autour de vous et vous devez convaincre votre équipe de vous suivre sur cette parcelle-là. Donc là aussi, on va regarder comment la personne va s'y prendre pour fédérer ses équipes autour d'elle, pour les amener vers une direction sur laquelle on souhaite les emporter.
Alors ce que vous faites, hein, vous l'avez je crois testé pour le moment auprès de 50 personnes, et ce que vous disiez à notre équipe pour préparer cette interview, c'est que la plupart étaient bluffés parce que c'est vraiment ce à quoi ils s'attendaient, c'est-à-dire ce qu'ils sont vraiment d'après eux, c'est ça l'idée ?
Exactement, c'est complètement ça. On a ce côté vraiment immersif qui fait que vous allez naturellement vous comporter comme si vous étiez confronté à cette situation-là, alors que dans les tests, on est confronté à de la réflexion et ce qu'on veut absolument pas. Et je peux vous assurer que sur l'exemple que je vous ai donné, vous mettez pas le pied à côté de la passerelle parce que vous avez vraiment l'effet du vide qui est très présent. Et donc aujourd'hui, c'est un outil qui est complètement intégré à notre processus de recrutement et qui vient parfaitement compléter le volet compétences, le volet savoir vouloir faire, quels sont les leviers de motivation des candidats. Et évidemment, les traits de personnalité sont très importants parce qu'elles vont devoir s'adapter, je dirais, à la fois à un secteur d'activité, à une entreprise et à un poste. Donc on n'est pas dans un jugement de valeur, on est vraiment dans...
Pour avoir le recrutement le plus affiné possible et le plus juste possible, hein, parce qu'on sait combien c'est difficile d'avoir un bon recrutement. Sébastien Guillon, vous êtes le directeur général de Michel et Augustin. Vous, par rapport à vos salariés, comment vous faites pour quand vous devez les recruter, pour mettre en avant ces fameuses soft skills, hein, ces qualités personnelles qu'on a du mal à voir à travers un CV?
Alors nous, la réalité virtuelle, on préfère la réalité réelle.
Dans la culture Michel et Augustin. Donc vous allez faire du sport avec eux pour voir comment ils
réagissent. Nous faites des gâteaux tous ensemble.
Exactement.
Vous.
Nous, on a la pâtisserie vraiment au cœur de notre
ADN. Quasiment tout le monde a un CAP pâtisserie,
exactement.
Je crois, chez vous.
Moi, j'ai passé mon CAP l'an dernier. On était 25 cette année-là à passer notre CAP ensemble. Et c'est vrai que c'est un moyen de mettre tout le monde autour de la table avec des niveaux d'expérience qui sont très variables. Et ce n'est pas forcément le chef d'équipe qui sera meilleur en pâtisserie que celui qui
Donc,
sort d'école.
Pour bien comprendre, quand vous faites un recrutement chez Michel Augustin, le test, c'est d'aller faire un gâteau en équipe.
Alors, c'est plutôt un process d'intégration. C'est-à-dire
d'intégration.
Une fois qu'on est arrivé chez Michel et Augustin, on a la possibilité, 100% des Trublions ont la possibilité de passer leur CAP pâtisserie. Et c'est des cours qui sont donnés pendant un an pour tout le monde, qu'on soit dans la gestion, dans le développement produit ou dans la logistique.
Donc, des casques de réalité virtuelle pour les uns ou
des gâteaux pour les autres.
Merci à vous, Yannick Wellenreiter. Vous êtes le dirigeant du cabinet de conseil Walter. Merci à vous, Sébastien Guillon. C'est la fin de votre émission. Vous êtes le directeur général de Michel et Augustin. Merci d'avoir été notre témoin du jour dans La France Bouge. Et demain, Emmanuel, on va se retrouver.
Vous savez quoi ? Aujourd'hui, je vous ai apporté des gâteaux apéro. Demain, je vous apporte ce que vous adorez. De quoi boire ?
Pour vous.
On sera avec le patron de Nicolas demain. Mais bien évidemment, on va consommer tout ça avec extrêmement de modération. 13h-14h sur Europe.
À demain. Restez sur Europe 1. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.